Vous écoutez Radio Maritime.
Ouais, le canal est là depuis le XVIe siècle et ça a grandi, et a joué un grand rôle dans la révolution industrielle.
Bonjour. Ça va, vous voulez venir avec nous?
On fait une petite émission radio.
On est en direct sur Radio Panique, c'est Radio Maritime. Vous habitez dans le quartier.
Des histoires autour du canal.
Je suis à côté du canal, je peux courir sans m'arrêter.
Ça va bien?
Oui, très bien. Surtout quand je viens ici, je suis vraiment la femme la plus heureuse.
Bah toi, tu es pour les pavés, toi?
Ouais, ça va.
Il y a l'équipe des pour, l'équipe des contre. Moi, je suis contre les pavés, t'es pour les pavés?
Je suis pour les pavés, faut juste adapter son vélo.
Je me souviens qu'on a chanté pour eux l'an passé.
Radio Maritime, c'est le jeudi de 11h à midi sur Radio Panique. 105.4.
Alors bonsoir, nous sommes actuellement le 26 avril et nous sommes à la place Flagey pour l'ouverture du BSFF, donc le Bruxelles Short Film Festival, donc un festival de courts-métrages bruxellois. Et donc nous sommes devant le paquebot et nous sommes prêts à entrer dedans pour assister à donc la cérémonie d'ouverture du festival. Alors nous sommes actuellement avec Laurence, Brigitte, Christiane, Alice, Anne et moi-même Marjane pour assister et Jonathan Poncelet afin d'assister à ces courts-métrages en tant que jury citoyen. Donc citoyen, on sait compris dans le nom, nous sommes des citoyens avec peu d'expérience mais une grande envie d'apprendre et donc ainsi nous allons avoir l'occasion de pendant 10 jours voir et des courts-métrages de la compétition nationale, donc avec des réalisations de courts-métrages belges.
C'est une très grande responsabilité si on veut le faire sérieusement et c'est ce que je compte faire, hein. Voilà. Moi, je trouve l'ambiance ici, déjà à l'extérieur, géniale. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de monde. D'habitude, il y a toujours du monde. Mais aujourd'hui, c'est fête. C'est la fête pour moi. Et c'est chouette. Et je me sens très bien.
Moi, je suis super excitée, super contente. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Fait que je suis très contente d'être là. J'ai hâte. Je me suis mise sur mon 31, j'en ai profité.
Jonathan, la petite Alice.
Ouais. Alice, comment t'es installée là?
Très confortablement. Justement, les sièges sont surélevés, donc même si les personnes sont vraiment très grandes, on ne voit pas que le crâne. Donc c'est agréable.
Et tu peux me rappeler dans quelle salle on est ici?
La salle Vendôme, c'est ça? Oui, c'est ça.
Et toi, Christiane, comment ça va?
Bien.
Bien installée?
Oui, mais je déteste parler.
Et toi, Jonathan, comment est-ce que tu es installée?
Eh bien, sachez que dans ma vie, plusieurs fois, j'ai pu être installé dans des sièges plus ou moins confortables. Et si je devais donner une note à ce siège actuellement, une note qui irait de 0, où ce serait vraiment genre un petit bout de bois qui traînerait par terre,
oui.
À 10, où on serait dans un fauteuil Louis XV bien installé, eh bien, ce serait un bon 7, un quart. Un 7, un
c'est
4.
C'est pas mal.
On enlève le micro, je dis des bêtises.
Voilà, c'est bon. Donc, on a vu plusieurs films, quoi, évidemment, c'est le jeu. Et il y en a un qui, je pense, a plu à beaucoup de monde, y compris dans la salle, par rapport aux réactions. Et c'est un film très impressionnant parce que tout était très maîtrisé. Et le son, et l'image, et les costumes, et le jeu d'acteur, et les coiffures. Et en même temps, ça n'était jamais trop. C'était très impressionnant parce que à la fois, on sentait qu'il y avait une grande qualité, une grande attention dans le moindre détail, et on n'avait pas cette sensation qu'on nous imposait quelque chose ou qu'on était dans quelque chose de trop propre, je dirais. Au contraire, c'était vraiment très impressionnant. C'est toujours difficile de se poser des questions de genre parce que c'est orienté, et en même temps, c'est terrible parce que les histoires qui mêlent des histoires avec des personnages féminins ou des personnages avec des relations parents-enfants quand c'est des mères et des filles, ben, malheureusement, ce sont des réalisatrices qui les font encore aujourd'hui. Et j'étais moi-même avec quelqu'un du jury qui, à la fin du film, a jeté un coup d'œil sur sa fiche et m'a dit « c'est une femme ».
Mais vas-y, serre-toi. Non, non, vas-y.
Attends, j'ai envie de... La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin.
Bien chanteur.
Je connais pas du tout.
La 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 la.
Attention, il va le dire, hein. C'est vas-y. C'était la dernière séance.
Ah, c'est la
dernière séance.
Oh.
Ah, ouh, ouh.
Bye bye.
Ah,
mais voilà, c'était tout un jeu parce que il a de l'humour, ce grand Adèle.
Qu'est-ce que ça fait d'être à la dernière séance?
Moi, j'adore. Ça, je vais avoir un petit comment on dit ça? Non, mais après là, quand t'as ton down, là, oui, je vais avoir un blues, ça c'est sûr, parce que j'adore.
Bonsoir à tous, welcome for this Zorist, pour cette énième séance, parce qu'on avance dans le festival.
Nous sommes actuellement à la délibération finale, donc le jeudi 4 mai. Ce fut un long parcours, mais nous y sommes arrivés. Et nous avons une présélection de films, et donc c'est la fin de l'aventure, mais on y est encore les pieds dedans. Et donc, j'arrive toujours pas à croire qu'on soit déjà au bout de 10 jours de festival. Je dirais que pour moi, ça pourrait continuer encore un moment.
T'es pas trop fatiguée ?
Un peu, mais c'est un rythme que j'apprécie.
Ça a été difficile de présélectionner des films, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns pour lesquels on était à peu près d'accord de les mettre de côté, qui nous ont plus ou moins convaincus, certains plutôt moins que plus. Mais par contre, on a 9 films sur lesquels on est à peu près d'accord et sur lesquels on va devoir débattre. Parce qu'en fait, ils nous ont tous soit beaucoup plu, soit séduits, soit des grands coups, je dirais, comme des coups de couteau, parce que c'était des grands chocs. Et ce qu'ils racontent et comment ils le racontent.
J'ai dit à Christiane, entre autres, que je regarde souvent, ça passe tard, des courts-métrages, c'est des courts-métrages, j'aime beaucoup ça. Et il y a des périodes comme ça où ils en passent beaucoup. Et il y en a aussi que j'aime et tout. Maintenant, je vais les regarder d'une autre façon avec les clés qu'on m'a données ici. Mmh. Tu vois ? Et c'est ça, c'est une chouette expérience. Vraiment. Mmh. J'ai vraiment fait une belle expérience.
Et, ouais.
Et alors, avec le groupe, il est super sympa. On s'entend toutes, je crois. Hein. Tous. Mmh.
Toutes, tu peux dire toutes.
Toutes.
Ouais.
Toutes.
Ouais. Donc, moi, toutes et toutes.
Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apporter là-dedans ? Parce que je n'avais pas tout le sens analytique et tout ça. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ça se concrétise. Tu as plus d'avis, tu arrives plus à identifier ce que tu as ressenti et pourquoi et comment et par rapport à quoi. Et ça s'est un peu éclairci, mais bon, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je ne serai pas tout de suite critique de cinéma, mais, mais bon, il y a quand même quelque chose qui s'est affiné, je dirais.
Et ce que j'aimais bien aussi à travers la technique, c'est parfois de comprendre comment on peut avoir certains ressentis. Parce qu'un film, c'est un scénario, mais il y a toute l'histoire à travers la caméra, à travers ce qu'elle nous montre et pourquoi elle nous montre ça, à quel moment elle nous montre ça. Et en fait, c'était intéressant de voir aussi, je ressens ça, mais pas seulement parce que le scénario me dit de ressentir ça, mais parce que le plan va me montrer ça de telle manière, va fermer quelqu'un dans un endroit pour me donner cet effet de claustrophobie, par exemple. Il y a vraiment on a parlé du montage plusieurs fois entre nous, on se rendait compte que le montage avait donné ce sentiment-là. On avait parlé des plans de caméra, non pas pour dire « Ah, mais c'est joli, il a fait un plan panoramique », mais aussi « Tiens, il le fait à tel moment pour nous donner ce tel sentiment d'ouverture et puis à d'autres moments, ça referme. » Donc, c'était chouette d'avoir ces côtés techniques parce qu'on pouvait aussi mettre des mots sur pourquoi on ressent ça. Et du coup, nous dire « Ah ben oui, il y a vraiment un travail cinématographique qui a poussé à ce qu'on ressente ça et pas juste le scénario. » Et c'est là où c'est vraiment chouette et tout le monde l'a fait ici. Vous l'avez toutes fait à un moment donné. Vous avez dit « Ah, mais tiens, j'ai ressenti ça, mais j'ai vu que la caméra me montrait ça ou elle faisait ça. » Et il y a tout ce langage cinématographique qui a été absorbé et que maintenant qu'on a tous les clés, tous et toutes les clés, ben, on peut même se dire « Ah, ben tiens, je sais ça et ça me permet de comprendre pourquoi j'ai ressenti ça. »
J'ai eu mon fils aîné au téléphone et il m'a dit « Comment ça va avec ton cinéma ?» Alors je dis « Laurent, c'est chouette, j'apprends beaucoup de choses et tout ça. » Et il y a même nos noms qui sont passés sur l'écran. Et je dis « Tu sais, je crois que ta mère se la pète un peu maintenant. » Et alors il m'a dit « Maman, vas-y à fond !» J'étais très fière.
Samedi 6 mai, je ne me trompe pas,
ouais.
Et la salle est blindée, elle est vraiment pleine parce que c'est un événement qui vaut le coup, parce qu'on va distribuer un certain...
Il y a plusieurs prix.
Ah oui, il va y avoir plusieurs prix pour une personne en particulier. Ça donne la fin d'une aventure, mais gigantesque. Moi, personnellement, j'ai trouvé cette aventure géniale et ça a permis vraiment de faire la rencontre de chouettes personnes, d'apprendre plein de choses sur le monde du cinéma que je ne connaissais pas.
Qu'est-ce que ça fait pour toi de te dire que c'est le dernier jour aujourd'hui ?
Franchement, avec sincérité, je ne réalise pas. Je ne réalise absolument pas. Pour moi, on va encore se revoir pour continuer. Je pense qu'après, quand vraiment, ce sera vraiment, peut-être on se reverra, on ne va pas. Mais pour l'instant, non, je réalise absolument pas que c'est la fin. Bon. Oui, peut-être que oui, là, ça clôture un peu tout ça avec la remise des prix. Mais pour l'instant, pour moi, je suis encore un peu dans un autre monde, on va dire, entre guillemets.
Ah, parce que...
Toujours en musique, Jonathan, les interventions sont toujours en musique.
Attends deux secondes, j'essaye. Hop là. Vas-y, voilà, partage. Tais-toi, c'est bon. Voilà.
Ah, j'aime bien voir celle-là.
Ah oui, c'est celle où on est en interview. Non, je viens de voir l'interview sur Instagram.
Oui.
Et bien voilà. Oh, cela commence.
Bonsoir, Renard. On est très heureux de vous voir présent pour cette soirée d'ouverture de la 26e édition du Brussels Short Film Festival.
Et on va commencer par le prix du regard citoyen qui est mené en collaboration avec Zara SBL et qui consiste en un jury de deux citoyens. Sept habitants résidant à Ixelles et Saint-Gilles ont reçu une initiation au langage cinématographique et ont regardé tous les films de la compétition nationale afin de décerner un prix.
Notre jury regard citoyen est composé de personnes d'âge, d'horizon et de genre très variés. Notre point commun, c'est que nous ne sommes pas des professionnels du cinéma.
Il nous a été donné de voir de très belles œuvres qui nous ont fait passer par plein d'émotions, allant de l'angoisse à la joie, sans oublier la colère.
Tout ça pour vous dire qu'on est tombé en amour avec cette œuvre à caractère unique. Le regard citoyen a été ébloui.
Les yeux d'Olga.
Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Vous écoutez Radio Maritime. Il est plus ou moins 11h15, un truc comme ça. On est sur Radio Panique, pardon, 105.4. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière. Déjà parce que ce n'est pas Thibaut qui parle, mais Thibaut est juste à côté de moi. Et parce qu'on va revenir sur un événement qui s'est déroulé il y a quelques semaines. C'est l'organisation du jury citoyen en partenariat avec le BSFF et le Xara ASBL, donc nous. Et voilà, et donc pour en parler, on est ici à Saint-Josse, dans les locaux du Xara, avec quelques personnes issues du jury citoyen, et donc qui ont participé à ce projet. Donc vous avez pu entendre quelques petites bribes et parties. Alors ici, on a donc Christiane qui est avec nous, Marjane. Ça va Marjane?
Tout va bien, parfait.
Il y a Laurence qui est avec nous aussi. Coucou Laurence.
Bonjour.
Tu vas bien aussi?
Très bien.
Super. Il y a Olivier qui nous a aidé aussi à réaliser le jury citoyen, mais il n'a pas de micro, donc il fait des coucous avec ses mains. Et on a aussi la chance d'avoir Sarah Carlo-Jabert, qui est donc la réalisatrice du film qui a été primé par notre jury citoyen. On aura l'occasion d'en parler juste après. Donc le film, c'est Les yeux d'Olga, qui a donc reçu le prix du regard citoyen. Mais avant toute chose, et avant de revenir là-dessus, je voudrais qu'on discute ensemble, d'avoir vos réactions en fait. J'aimerais avoir vos réactions sur ce qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce que ça fait d'entendre de nouveau toutes ces parties, tous ces moments du processus du BSFF et du jury citoyen? Ouais, Marjane.
Ça fait bizarre d'entendre sa propre voix, même à l'instant, ça, c'est un certain effet. Mm-hmm. Mais c'est vrai que au moment de l'enregistrement, on était dans le processus. C'est-à-dire que là, on a eu l'occasion d'entendre un produit fini. Et ça nous permet de nous remémorer vraiment de beaux souvenirs, des processus de pensée, vraiment ce par quoi on a été, ce qu'on a vu, les sentiments qui nous ont traversés. Et donc c'est assez touchant et c'est plein d'émotions. Et en plus, on a l'occasion de voir tout ce que les autres en ont pensé, parce que pour le coup, on était vraiment nous-mêmes, soit dans le processus, et on ne faisait pas forcément attention au reste du groupe. Et là, ça a été... vraiment le regard extérieur après quelques semaines qui se sont donc passées maintenant.
Laurence, tu veux rajouter quelque chose?
Je suis toujours impressionnée par le fait que le son nous replonge dans les instants vécus, en fait. De chaque intervention, de chacun de nous, je vois très bien dans quel lieu on était. Et j'ai beaucoup apprécié de réentendre deux fois le générique de ce qui présente à chaque fois chacune des séances. C'est-à-dire qu'on a assisté à 10 séances et on a vu 10 fois et surtout entendu et écouté 10 fois ce générique. Et c'est très rigolo de le réentendre.
Et alors après, parce que là, donc, ça fait presque un mois que le festival s'est clôturé. Si, presque. Hein.
Je vois Olivier qui me fait des signes. Non, pas tellement. Qu'est-ce que, avec du recul, qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Parce que là, dans le reportage, on entend donc que sur le moment, ben, il y a de la fatigue, mais à la fois, c'est quand même il y a un groupe qui se crée, donc c'est un peu presque comme si on partait en colonie de vacances à 10 pendant une semaine. Et voilà, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué?
Moi, j'en retire que on a tout le temps pris le temps d'écouter les interventions de chacun, et j'en retire ça, cette sensation que en fait n'importe qui peut avoir quelque chose à dire, de toujours finalement intéressant et enrichissant pour les autres, en tout cas pour moi.
J'en retiens que c'est vrai, comme ça avait été dit, notre regard sur le cinéma a évolué. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression que ça nous donne une espèce de légitimité dans notre regard, parce que c'est vrai que au début de l'aventure, on était un peu tous et toutes à se demander, mais est-ce que notre regard est légitime et comment ça va se dérouler? Comment on va savoir dire si un tel ou une telle est bon ou pas bon? Enfin, c'est entre guillemets, mais c'est une manière de penser. Et en fait, au final, ça a été assez facile, j'ai envie de dire, parce que on avait vraiment la plupart du temps, nous avions des points de vue communs, même si ça dérivait, et même quand on n'était pas d'accord avec des avis opposés, on arrivait à expliquer pourquoi. Et je pense que la dynamique de notre groupe fonctionnait énormément parce que du coup, on a réussi à trouver ce rythme dans lequel on écoutait les autres et les autres nous écoutaient. Donc je pense qu'on nous en sommes ressortis avec une certaine légitimité, un certain regard sur le cinéma et des connaissances, j'espère, pour du long terme.
Alors, peut-être vous pouvez nous expliquer un peu comment se passaient les délibérations. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient mises en place dans le groupe et tout pour faire en sorte d'arriver à quelque chose de concret et de commun?
Alors, on a eu une petite formation de 2 heures pendant 4 séances sur des petits points précis, sur le fait qu'on ne dise pas j'aime pas, point, mais j'ai aimé parce que, ou je n'ai pas aimé parce que, et des points techniques. Et donc là-dessus, on avait pour chaque film une petite fiche à remplir de façon très libre, mais qui nous a permis en fait dans les délibérations de pouvoir discuter point par point sur par exemple l'utilisation du son, l'utilisation de l'image. On a par exemple fait très attention au fait qu'il y a des films où parfois on n'entend pas ou on ne comprend pas les dialogues. Et ça a l'air bête, mais c'est quelque chose de très important. Et en fait, on voyait une séance et le lendemain, on commençait par une délibération de 2 heures où on parlait des films qu'on avait vus à la séance d'avant. Ensuite, en général, on mangeait ensemble et on voyait la séance suivante.
Alors, donc on a eu cette petite formation qui nous a apporté des clés sur plusieurs semaines. On se retrouvait une fois par semaine et on regardait des courts-métrages, des précédents festivals, du BSFF et... Du coup, on a appris, on nous a donné des clés d'interprétation, de visionnage. Mais donc, les vraies délibérations se déroulaient le lendemain du visionnage des courts-métrages. Et c'était un peu avant les courts-métrages qui allaient suivre, les projections qui allaient suivre. Et donc, on était dans la salle, on avait un cahier de notes avec vraiment toutes nos fiches. Et en fait, on avait tous noté un peu vraiment de travers et tout parce que c'était dans le noir. Et il se passait que chacun donnait son avis et c'est là où ça fonctionnait très bien. On s'écoutait et puis on relançait sur ce qui avait été dit. Et chacun faisait attention vraiment à des choses différentes, ce qui est assez intéressant. Il y en a qui faisaient du coup... Christiane, par exemple, elle faisait beaucoup plus attention au son, la clarté de ce que les acteurs, les comédiens disaient, parce que des fois, tout n'était pas clair pour elle. Tandis que d'autres ont fait plus attention au son, au jeu d'acteur, au plan technique et tout. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et chacun donnait son avis, en fait. Et à la fin, on en arrivait à une conclusion assez avancée, quand même, où on savait... on savait si on le gardait ou pas, ou si ce qu'on en pensait généralement.
Et donc moi, j'ai eu la chance de suivre le processus avec vous, sans faire partie du jury, mais donc en vous accompagnant dans le projet. Et j'ai quand même l'impression, et c'est une super transition, que assez vite, les délibérations, ou en tout cas les avis, ont vraiment convergé vers un film en particulier, puisqu'on a eu l'occasion de le voir à la deuxième séance. Donc c'était donc Les yeux d'Olga de Sarah Carol Jaber qui est avec nous dans le studio aujourd'hui. Et voilà, donc comment est-ce que tu vas, Sarah ?
Bonjour, eh bien je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très touchée d'avoir écouté ces capsules et d'avoir pu voir quel a été le parcours et vos réflexions. Et d'ailleurs aussi, quand vous avez fait la remise de prix, merci pour ce prix d'ailleurs, je trouve que votre discours était très puissant. Et j'ai même dû un peu, à la fin, quand j'ai reconnu le film, etc., puis vous étiez avec les lunettes de soleil... Donc, c'était évident. J'ai dû un peu vous mettre sur mute pour pas avoir trop d'émotions en venant chercher le prix. Mm-hmm.
Voilà. Oui, c'est vrai que le discours était assez... Surtout que vraiment, il y a ce moment où Anne dit que ce film nous a éblouis. Donc, pour ceux qui, évidemment, n'étaient pas là à la cérémonie, elles ont toutes sorti des lunettes de soleil. Parce que vraiment... Et puis, il y a tout un lien aussi, évidemment, avec le titre et le film et le titre du film. Et on va en parler juste après. Parce qu'ici, on va faire une petite pause musicale. Et vous allez comprendre pourquoi, mais on s'est décidé ensemble et on a décidé de passer un morceau de Thomas Fersen. Et le titre de ce morceau, c'est Dracula. Donc vous allez comprendre un peu par la suite. On se retrouve juste après.
Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula qui l'emmène dans sa tombe et non sur un mât? Fond de son château, je sens sur moi son œil. Quand je range mon violon dans son petit cercueil, dans les rues de la ville, parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, ce fou romantique jeté dans les oubliettes. Il me semble gratter à ma fenêtre. Connaissez-vous l'étrange conte Dracula qui dormait dans sa tombe ou bien la tête en bas? Il se relève la nuit pour aller se nourrir et il ne sait pas se décrire. L'eau des miroirs ne lui renvoie s'il est laid. Il porte une cape, il porte une fraise en dentelle, un chapeau démodé, mais il est immortel. Je connais une fille dont le sourire pointu est plus cruel que celui de sa chevelure blonde, comme si l'on revenait d'une cave profonde. Le goût de sa personne comme celui de l'ail me reste dans la bouche, je doute qu'il s'en aille. Il semble que l'amour soit parfois un charme bien pire que celui que l'on prête au prince des vampires, de malheureuses piqûres dans le cou qui vous gratte, discrète signature du vieil aristocrate, dans les rues de la ville parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, se fourrant. Gratter à ma fenêtre.
Vous êtes toujours sur Radio Panique, on écoute Radio Maritime 105.4 et on va en profiter pour faire un bisou à tous les autres membres du jury citoyen qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Voilà, bisous à Brigitte, Alice, Jonathan, Anne et je crois que je n'oublie personne. Si j'oublie quelqu'un, désolée, mais on pense à tout le monde, évidemment. Donc, petit retour en studio et... C'est maintenant le temps donc de présenter Les yeux d'Olga. Donc Sarah, peut-être que je peux te laisser parler de ton film. Qu'est-ce que c'est, Les yeux d'Olga ?
Alors, Olga, mélomane et octogénaire, ne veut plus tuer d'humains. Un classique spleen du vampire. Et du coup, sa fille Simone considère que c'est totalement faire la fine bouche et décide de placer sa mère en maison de retraite. Là-bas, selon ses mots, elle n'aura qu'à s'occuper de ceux et celles qui sentent le sapin. Donc le sapin, le bois du cercueil, ceux qui s'apprêtent à mourir. Ça, c'est le pitch du film.
Eh bien, je propose qu'avant d'en parler, on écoute le trailer qui dure une petite quarantaine de secondes et puis on revient juste après. On a bouffé tout le quartier. Tu peux
plus rester ici. Je comprends que ce soit difficile, mais tu t'en sors plus toute seule.
Tu vas être très bien ici. Quelle est notre moyenne de décès ?
Pardon ?
Envoie-moi le sang.
Cherchez quelque chose, madame la Normand ?
Pas du tout. J'ai pas bougé de mon lit.
Vous n'avez toujours pas reçu mon colis ?
On se faisait la réflexion que c'était assez fou d'écouter comme ça un trailer et que celui-ci fonctionne vraiment bien même en radio. Voilà, donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et maintenant, je vais vous laisser la parole, Marjane et Laurence, puisque vous avez quelques questions à poser à Sarah qui est ici parmi nous. D'ailleurs, merci encore d'être avec nous parce que c'est vraiment super d'avoir l'opportunité d'en discuter comme ça avec toi en direct. Donc voilà, je vous laisse
merci la parole. À vous.
Alors moi, j'aimerais savoir, à propos de ce film, quelle est l'histoire de sa réalisation ? Comment l'idée t'est venue et quand est-ce qu'elle t'est venue ?
Ok. Alors, on s'inspire souvent de notre vécu. Bon, je n'ai pas de vampire dans ma famille, ça c'est sûr. Mais l'idée m'est venue de ma grand-mère qui a perdu la mémoire. Et à un moment donné, elle a été placée dans une maison de repos parce qu'elle n'a pas pu rester à la maison juste pour 2 semaines. Et en 2 semaines, elle a perdu 8 kilos parce qu'il fallait que quelqu'un lui donne à manger pendant plus d'une heure. Et ce n'était pas possible, en fait. Le personnel soignant n'avait pas le temps. Et aussi, il y a quelques années, j'étais en coloc avec une infirmière qui travaillait en maison de repos. Et elle m'a raconté plein de petites anecdotes de son vécu. Que j'ai niché dans le scénario. Par exemple, le tensiomètre qu'elle retrouve au mauvais étage, donc elle présuppose qu'un infirmier a griffonné des tensions au hasard, ou le certificat de demande d'euthanasie qui est retrouvé des années plus tard, mais maintenant la personne est devenue sénile. Donc ça, ce sont c'est du vécu. Pareil, les scènes de violence, etc., en maison. Et donc je pense que j'ai eu envie de... C'est ma grand-mère donc, que j'ai perdue. J'ai eu envie de faire une sorte d'hommage, de fémage plutôt. Et c'était une façon d'empouvoirer son histoire, quoi.
Et effectivement, on voit dans les thématiques qui ont été choisies comment est-ce que nous traitons nos personnes âgées en les mettant à l'écart, en les traitant peut-être pas très bien sur place. Mais il y a aussi d'autres thématiques comme le fait de vivre ensemble, de faire communauté, de créer une communauté. Et comment tu as décidé d'en parler avec les codes du film d'épouvante ?
Oui, alors la thématique, l'idée c'était que ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est mort. Donc il y avait quelque chose de tourné de façon positive. Et mon envie était d'aborder... Puisque perdre le fil de l'histoire, entre guillemets, était le moteur de celle-ci, j'avais envie d'aborder cette histoire par le prisme de la comédie. Et la comédie et le genre nous permettent d'aborder des sujets plus graves tout en étant plus, plus détachée peut-être un peu. Et donc oui, il y a plusieurs sous-thématiques. Donc ce film a été croqué, si je puis dire, à travers le prisme du genre aussi. Et donc il y a une scène avec un tampax parce que l'envie était que de parler aussi du sang de règle, c'est pas grave. Aussi que les scènes de viol conjugaux en maison de retraite ou même conjugaux tout court. Oui, et le vivre ensemble, bien sûr.
Alors, comme le film parle de vampires, nous avons remarqué qu'il y avait certains codes de vampires qui n'étaient pas exploités. Par exemple, je prendrai l'exemple de la projection. J'étais dans la salle et mon voisin a dit à sa voisine « Mais elle se voit dans le miroir ». Et c'est une réflexion que je me suis faite parce qu'après, par exemple, il y a cette scène où elle ramasse avec le journal la gousse d'ail.
Alors, l'idée, c'est que, enfin, moi, je trouve avoir exploité les codes vampires, mais par contre, ils sont revisités, un peu plus contemporains. En fait, quand elle se voit dans le miroir, c'est parce qu'elle crève de faim et il y a un effet spécial qui fait que son reflet apparaît progressivement. Au début, elle n'a pas de reflet au début du plan et puis après, il arrive par flash. Mmh. Ensuite, la gousse d'ail, pour les vampires, l'ail, ça pue, mais ça la tue pas. Mais par contre, quand elle met le doigt, ça lui pique le doigt un peu. C'est pour ça qu'elle le ramasse un peu comme une crotte de chien avec un papier journal. Et elle porte des lunettes de soleil parce que la lumière pique les yeux, mais ça va.
Oui, c'est ça, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait cette scène vraiment... un peu idiomatique où elles arrivent et puis elles portent les lunettes de soleil, de grands chapeaux et elles sont dans le couloir. Vraiment une très belle scène. Et du coup, on en arrive au choix du titre qui est assez particulier. Si j'avais cru comprendre, avait un peu changé au cours du processus de création.
Oui, alors le titre au départ, c'était Olga, mais parce que peut-être que j'ai fait l'IAD et qu'on a cet exercice en quatrième avec... Benoît Mariage, où en fait on doit avoir pour titre de notre film le titre du protagoniste ou de la protagoniste. Et du coup, c'est vrai qu'en général, mes titres provisoires sont toujours le personnage, le prénom du personnage. Les yeux d'Olga, pourquoi ce choix? Parce que c'est le regard que porte Olga, c'est sa subjectivité sur cette maison de retraite, qu'en fait, elle observe ce microcosme. À la fois, au départ, elle est un peu extérieure et puis elle va commencer à le pervertir, entre guillemets, pour le contaminer de ses valeurs aussi. Et les yeux d'Olga, donc parce que la subjectivité d'une femme octogénaire, mais aussi, petite anecdote, Viviane de Monk, qui incarne avec brio Olga, a des problèmes de vue. Et du coup, c'était aussi une manière de souligner ça.
Et justement, puisqu'on parle de l'actrice, dont effectivement on a été très impressionné, par son jeu. Globalement, on va dire, dans le film, le jeu des acteurs est très théâtral, très marqué, et ça fonctionne très bien. Mais pourquoi avoir fait ce choix-là? Et comment s'est passée la direction des acteurs et des actrices?
Ok. Alors, j'aurais tendance à plutôt dire qu'il est composé, le jeu, plus que théâtral peut-être. Mais c'est sûr que j'ai accordé une grande importance au casting parce que justement, en étant à la fois sur de la comédie, du film de vampire, un peu de social, etc., j'avais besoin de travailler avec des personnes en qui je suis vraiment en confiance et que je savais qu'ils pouvaient composer. Et aussi une vampire, il faut construire la créature. Donc quand elle a faim, les petites mimiques, quand elle commence à se gratter, etc. Donc ça, c'est quelque chose que Viviane avait déjà composé aussi avant de venir. C'est quelqu'un qui bosse, qui avait travaillé. Et sinon, moi, sur le plateau, je travaille un peu avec les méthodes d'acting de Stanislavski ou de l'acteur studio. Donc c'est plus en utilisant des verbes. Méthode des verbes et sinon donc toujours donner des directions qui sont des verbes à l'infinitif parce que tu te sens pas bien, ça marche pas, mais par contre il faut convaincre, tu dois convaincre l'autre personnage, c'est plus direct. Et la technique des objets aussi et des souvenirs qui est plus de l'acteur studio. Donc parfois je travaille, donc j'ai mon scénario et j'ai trois colonnes comme ça, verbe, souvenir. Et du coup, je partage aussi parfois des souvenirs et parfois les comédiens, comédiennes composent aussi et ont les leurs. Voilà.
C'est très intéressant, très technique. Et du coup, je me pose des questions sur les influences que tu as eues, parce que ton film est baigné de petites références. Est-ce que tu as été influencé par des films, des livres, de la musique, des séries ?
Oui, bien sûr. Donc, l'envie, c'était aussi d'aborder toujours par le genre, cette histoire. J'ai fait des études de genre après l'IAD aussi. Et donc, au niveau esthétique, le film de référence, c'est Les Olympiades de Jacques Audiard, avec ma directrice photo, Nastasia Sarens. On a travaillé cette idée du noir et blanc pour aller vers quelque chose de brillant, contrasté, à la fois un noir et blanc, comme des vieux films de vampires, mais pareil, revisité avec quelque chose de plus contraste et plus brillant, avec des noirs profonds dans l'image. Et sinon, A Girl's Walk Home Alone at Night de Lily Amirpour, c'est un film de vampire iranien que j'adore. Et sinon, bien sûr, Amélie Poulain.
Effectivement, le film est en noir et blanc et j'étais frappée par, si on parle de couleurs, je dirais, le fait que tous les acteurs ne sont pas blancs et que on ne se dit pas « Ah oui, tiens, là, il y a le noir de service ». Pas du tout. En fait, tous les acteurs sont là et les personnages sont là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On n'a pas l'impression qu'on a choisi des gens qui représentent certaines communautés. Non, c'est la communauté d'aujourd'hui, c'est nous, en fait.
Alors, moi, j'aurais une question, parce que là, jusqu'à présent, tu nous as beaucoup parlé des réflexions qui ont eu lieu en amont et autour de ce métrage, de ce court-métrage. Est-ce qu'il y aurait, parce que tu l'avais qualifié de jubilatoire, tu avais qualifié le tournage de jubilatoire, donc moi je me demandais, est-ce qu'il y a une petite anecdote de tournage que tu pourrais partager avec nous ?
Oui, alors quand je dis jubilatoire, c'est parce que je pense que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce film, donc à toutes les étapes, que ce soit même la composition musicale, etc. Mais du coup, niveau anecdote, alors là je ne sais pas si j'ai une anecdote drôle tout de suite, mais en tout cas on a tourné... en période de Covid, et premier jour de tournage, on avait trois membres de l'équipe qui avaient le Covid, donc la productrice Manuela Rutten, la script et la co-chef déco, et qui ont dû partir et quitter le plateau. Du coup, c'est vrai qu'on a eu cette chape, donc moi, mon stress, c'était de refiler le Covid à Viviane, quoi. C'était les masques pendant trois jours, un peu psychose. Et sinon, on a tourné dans un centre de revalidation à Spagne-Vezé. Et on a tous dormi sur place, du coup, pour éviter tout contact avec l'extérieur, etc. Et vu que je ne fume pas de cigarette, je me suis rendu compte qu'après trois jours et demi de tournage, je n'étais pas sortie de la résidence parce que je faisais plateau, dortoir, enfin chambre, ce n'était pas un dortoir, mais chambre et cantine. Voilà, donc c'était la boucle.
C'est très intéressant de l'apprendre, en fait, parce qu'évidemment, ça, on ne le voit pas dans le film, mais ça va bien avec le fait que le film, effectivement, il se recrée une communauté dans un espace clos. Effectivement, les personnes ne sortent pas. On ne les voit même pas trop se promener dans le parc, par exemple. Comme toujours, quand il y a des films sur des personnes âgées en résidence, c'est ce qu'on nous montre, tandis que là, pas du tout.
Oui, c'était une envie que ce soit un peu claustrophobe, quand même.
Oui. Moi, je fais toujours attention aux bandes de son, et j'étais frappée par le traitement des sons dans le film, par exemple. Il y avait toujours le code des films de vampires, il y a des portes qui grincent, par exemple. Alors que ce n'est pas un moment effrayant. Et je me demandais comment ça avait été traité, et en particulier pour la musique, est-ce qu'il y a une bande originale ?
Oui, alors je suis très fière et contente du travail du son. J'ai travaillé avec des personnes formidables. C'est Lise Boucher qui a bruité tout le film, Jeff Levillain qui a fait le mixage. Donc Lise a fait aussi le sound design. Par exemple, ce moment où, en fait, Olga, parce qu'elle est toujours entre cette envie de manger des gens parce qu'elle en a besoin, elle doit se nourrir, et puis, vu qu'elle a de l'empathie pour eux, elle n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'elle commande des poches de sang à sa fille, etc. Elle essaye à chaque fois de trouver du sang par tous les moyens. Et donc, c'est Lise qui a fait ce sound design-là, et elle entend, en fait, parce qu'il est compositeur, ce monsieur-là, il est sénile, mais compositeur, et quand elle veut écouter son pouls, en fait, elle entend sa petite musique intérieure. Et sinon, la composition musicale est originale et elle a été faite par Marc Hazard.
Oui, d'autant plus qu'il y a un personnage qui est musicien et Olga est mélomane. Donc, c'est très important. Voilà, la musique est importante dans l'histoire et du coup, dans la bande-son, oui.
C'est un film très musical. Et on s'est rencontrés d'ailleurs au MCM, le Festival Musique et Cinéma de Marseille. Il y a des rencontres organisées comme ça où on peut rencontrer des compositeuristes. J'en avais rencontré 5 et Marc Hazard faisait partie de ces personnes.
Et toujours dans la technique, je dirais, on a remarqué qu'il y avait le traitement, pas de l'image, mais de ce que l'on voit, le décor, les costumes, est très important. Et je dirais très maîtrisé. Il y a des moments où, il y a une scène où il y a un personnage allongé dont le vêtement correspond au papier peint. Est-ce que tu peux nous parler de ça ?
Oui, bien sûr. Alors j'accorde une grande importance à la direction artistique. J'aime bien que ce soit volontairement un peu esthétisant. Du coup, avec mon chef d'éco, Miwash Martignac, on a travaillé les chambres en fonction des... Il y avait des thématiques et des univers par personnage. Donc Olga, c'était la géométrique. D'ailleurs, elle a cet œil comme ça et tout est géométrique dans sa chambre. Madame Farsène, c'est la végétale. Donc elle a des fleurs sur le papier peint, des fleurs partout. Et Simone, sa fille, c'était la féline. Donc elle est habillée tout en léopard.
Merci.
Alors, on a remarqué votre goût des motifs léopard et qu'on retrouvait chez Simone. Alors, moi, j'aurais une question au niveau des personnage, entre guillemets, puisqu'il y a un personnage qui est évoqué. Donc, moi, je me demande, qui est Vlad, en fait ?
Alors, Vlad, c'est Vladimir, le vampire. C'est son pote vampire. C'est une référence au vampire, oui. Quand elle part au terme avec Vlad, sous-entendu à Budapest.
Okay. Oui, mais en fait, c'était amusant parce qu'on ne le voit jamais. Et on comprenait que c'était Vladimir, mais c'est son mari, son compagnon, son frère, son ami, son fils, peu importe.
C'est un copain.
Et alors...
Son sex friend.
Alors, nous demandions, donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux yeux d'Olga à venir ?
Alors, c'était son premier festival et je vous remercie beaucoup pour ce prix. C'est très chouette d'avoir un prix avec une première sortie en festival. Il a d'autres sélections, mais dont je ne peux pas les mentionner là maintenant. On espère qu'il va faire d'autres festivals. Je tiens à remercier mes productrices aussi, Elsa Piello et Emmanuela Rutten. Nous espérons l'accompagner et puis il y aura sans doute des diffusions télévisées aussi, donc on vous partagera ça. Et aussi, je suis en train de travailler à une version longue d'un film de vampire, donc j'espère continuer ce projet.
Avec les mêmes personnages, la même idée de... Les vampires au sein de notre société
C'est ça, ce serait encore un film de vampires. J'aimerais retravailler avec Viviane. Mais sinon, j'ai d'autres projets aussi. J'ai eu l'aide à l'écriture de la Fédération pour un projet de long-métrage qui s'appelle Tal Zatar, la colline du Thym, et qui est inspiré de l'histoire de mon père qui a vécu la guerre du Liban, un siège important qui s'appelle Tal Zatar. Je travaille aussi avec le collectif Elles font des films. J'avais envie de vous en toucher un mot parce que nous travaillons sur plusieurs projets. Donc, il y a des formations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur les plateaux de tournage qui auront lieu très prochainement. Mais aussi, ça fait 2 ans avec un petit groupe que nous travaillons sur une étude chiffrée. Devant et derrière la caméra, Elles font des films. Et nous partagerons les résultats de cette étude le 22 juin. Donc, soyez... là, ce serait super parce qu'il y aura des personnes du secteur qui y seront et on analyse un corpus de 700 films où c'est 700 films financés par le Centre du cinéma sur 10 ans et on voit vraiment à tous les postes clés où se trouvent les femmes. Une étude genrée derrière la caméra et devant la caméra avec un deuxième corpus qui analyse 10 ans de films sélectionnés au deuxième tour des Magritte. Et là, les films ont été visionnés en intégralité, donc c'est plutôt les personnages et les thématiques aussi qu'on analyse.
Mais justement, pour réagir à ce que tu dis, on se faisait la réflexion durant le BSFF, de se dire que cette année, il y a quand même une bonne sélection de réalisatrices qui ont été récompensées. Et donc, ça, c'est déjà très chouette. Mais il y avait aussi, d'un autre côté, la réflexion qui a été faite de se dire, par exemple, je ne reviens plus sur le nom de cette réalisatrice, mais qui a réalisé Motherless Child et qui joue aussi dans Underdog.
Sophie Maréchal.
Voilà, merci beaucoup. Et qui disait vraiment à quel point c'était compliqué aussi en tant que réalisatrice d'obtenir que ce soit des financements. Parce qu'elle, donc elle disait, a commencé en tant que comédienne et donc que sa fonction principale, en tout cas jusqu'à présent, c'était d'être comédienne. Et qu'il y avait tout ce truc vraiment de... Ça doit être tellement compliqué en tant que femme, que c'est beaucoup plus compliqué, pardon, en tant que femme, de demander des financements, de parvenir à réaliser tout un film, à rassembler toute une équipe comme ça, et que les principes de légitimité étaient tellement compliqués encore dans ce secteur-ci. Je ne sais pas s'il y a déjà une évolution ou si tu notes déjà...
Alors, j'espère que ça bouge un peu avec le renouvellement de la commission et une envie d'avoir des stratégies dites d'action positive pour avoir des jurys paritaires, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que Olga, par exemple, est passée 3 fois en commission. Il a été financé au 3e dépôt et, par exemple, au 1er dépôt, il y avait eu cette histoire du tampon où on m'avait dit que c'était violent et que... ce à quoi j'avais répondu qu'une scène de viol incestueuse dans Game of Thrones, ça c'était de la violence, et une vampire qui mange un tampax, c'est pas très grave. Mais ça bouge. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui subsidient ont peut-être tendance à choisir de financer des films qui leur ressemblent. Et c'est pour ça que c'est important de questionner ce que c'est que le regard neutre, qui est un homme blanc hétérosexuel de 40 ans, on va dire, et de laisser place aussi à d'autres regards.
Et comment est-ce que tu crois qu'on pourrait réussir à faire ce genre de choses? Est-ce que tu crois qu'il y a des pistes, même en tant que nous, je veux dire, en tant que citoyens, citoyennes, qui ne sommes pas forcément dans le secteur, en tout cas cinéma, ou en tout cas notre activité ne se situe pas à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour... Aller voir des films, j'imagine, de réalisateurs.
Ben oui, aller voir des films, se questionner, comme tout ce que vous avez fait, en fait, questionner qu'est-ce qu'on montre, pourquoi on le montre, comment on le met en image, etc. Et bon, après, je pense que les incitants financiers, les quotas, ce serait une mesure, voilà, ce serait super, mais on n'en est pas là. Essayer de compter aussi, comme on le fait avec les études chiffrées ou par exemple le BSFF, j'avais compté à 30% de femmes réalisatrices sélectionnées. Ah oui, okay. Bon, c'est en compétition nationale, super. Est-ce qu'on arrivera à 50% bientôt? Voilà.
Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce dont on vient de discuter?
Je pense que tout a été dit, de mon côté du moins.
Oui. Oui, Laurence, pareil. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que... Bah oui, non, on a parlé des futurs projets, etc., des choses. Peut-être rappeler donc, le rendez-vous du 22 juin.
Oui.
Où est-ce qu'il va se
dérouler? Le 22 juin, au Cinéma Galerie. Okay. Donc, on partagera les résultats avec Sarah Sépulcre, qui est la chercheuse qui travaille avec nous. Ensuite, il y aura une table ronde avec des personnes du secteur. On va un peu questionner la parité et comment être plus inclusif dans nos métiers et nos pratiques. Ensuite, on projettera le film Brainwashed de Nina Menkes, qui est un super film. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais en gros, elle reprend plein d'extraits de films cultes du cinéma et elle analyse le male gaze qui est véhiculé dans les œuvres.
Ok. Donc ça, j'imagine qu'on peut retrouver ça sur les réseaux de Elles font des films.
Exactement.
Et alors, au niveau des diffusions, si jamais il y a des auditeurs ou auditrices qui ont envie de suivre ton projet, ou en tout cas ton film, Les yeux d'Olga, où est-ce qu'on peut retrouver éventuellement les futures projections?
C'est sûr que je partagerai sur Instagram déjà, et très bientôt.
Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci à toutes et tous, mais surtout à toutes aujourd'hui, parce qu'on est presque que des filles dans le studio, pour la participation. Merci à toutes les auditeurs. Pardon, je recommence. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et gros bisous à tous ceux qui n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui. Enfin, vous écoutez Radio Maritime, on est sur Radio Panique 105.4 et on se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.
Merci.